l'Iran et le Pakistan rétablissent leurs relations diplomatiques. Israël a frappé Damas. 4 conseillers militaires du CGRI ont été tués en martyrs. Et la résistance irakienne a abattu un drone américain, Reaper. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le Pakistan a annoncé un rétablissement complet de ses relations diplomatiques avec l'Iran suite à la recrudescence des opérations antiterroristes à leurs frontières communes. L'annonce a été faite vendredi 19 janvier, après que le premier ministre par intérim du Pakistan, Anwar al-Haq Kakar, a tenu une réunion d'urgence avec les commandants de l'armée et les responsables du renseignement autour des questions relatives à la sécurité frontalière. Islamabad a donc décidé de reprendre pleinement ses relations diplomatiques avec Téhéran et les ambassadeurs des deux pays seront bientôt désignés. Le premier ministre pakistanais a déclaré vendredi qu'il était dans l'intérêt des deux pays de rétablir leurs relations telles qu'elles étaient avant le 16 janvier. À cet égard, le Pakistan accueillera favorablement les initiatives de l'Iran et lui rendra l'appareil. Le Pakistan et l'Iran sont deux États frères qui entretiennent des relations fraternelles et historiques marquées par le respect et l'affection, a-t-il indiqué. Le premier ministre pakistanais a ajouté que le Pakistan est un pays respectueux des lois et pris de paix, qui cherche des relations amicales et coopératives avec tous les pays, en particulier avec ses voisins. Plus tôt dans la journée, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian ont eu une conversation téléphonique, notamment au sujet de leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du renforcement de la sécurité des frontières. Le 16 janvier, la République islamique d'Iran a lancé de façon simultanée des attaques de drones et de missiles contre 2 fiefs de Jaish al-Adl sur le sol pakistanais, groupe terroriste qui a mené une attaque en décembre 2023 contre un commissariat de police de la ville de Rask dans le sud-est de l'Iran. L'attaque a fait au moins 11 morts parmi les policiers iraniens. Le 10 janvier dernier, une autre attaque du groupe terroriste contre un commissariat de police de la ville a également causé la mort d'un policier. Le 18 janvier, le Pakistan a mené des frappes contre des bases du Front de libération du Baloutchistan et de l'armée de libération Baloutch dans les régions proches de la frontière iranienne. Téhéran a condamné cette attaque qu'il a qualifiée d'inacceptable et de déséquilibrée. L'aviation israélienne a mené ce samedi 20 janvier une frappe contre Damas, capitale de la Syrie, faisant plusieurs morts et blessés. La télévision syrienne a fait part d'une frappe aérienne menée par le régime sioniste contre la banlieue de Damas. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que 4 de ses conseillers militaires ont été tués avec un certain nombre de forces syriennes. L'attaque visait un immeuble résidentiel de 3 étages dans le quartier Al-Mizar de Damas, qui abrite plusieurs missions diplomatiques. Une fois de plus, le régime sioniste barbare et criminel a lancé une agression contre la ville de Damas et un certain nombre des forces syriennes et 4 conseillers militaires de la République islamique d'Iran ont été tués en martyr lors du raid aérien mené par des avions de combat des forces du régime usurpateur, indique le communiqué du CGRI. La résistance islamique irakienne a assumé la responsabilité d'avoir abattu un célèbre drone américain Reaper qui avait violé l'espace aérien de l'Irak par l'ouest. Dans un communiqué publié vendredi 19 janvier, la résistance irakienne, un groupe de coordination des combattants antiterroristes irakiens, a déclaré avoir abattu un drone américain avec des armes appropriées. Le drone abattu de classe MQ-9 Reaper était entré dans l'espace aérien irakien depuis la base aérienne voisine d'Ali al-Salim au Koweït, selon le groupe de résistance. L'armée américaine décrit le MQ-9 comme le premier drone chasseur-tueur conçu pour une surveillance de longue durée et à haute altitude. À la fin de son communiqué, la résistance est engagée à poursuivre ses attaques contre l'ennemi en menant des opérations contre les positions des États-Unis dans la région. La résistance islamique a d'ailleurs intensifié ses attaques contre des cibles israéliennes et américaines depuis le 7 octobre dernier en signe de soutien au peuple palestinien et de protestation contre la guerre génocidaire en cours menée par le régime israélien dans la bande de Gaza. Le commandement central des États-Unis a annoncé avoir mené des attaques dites préventives contre 3 lanceurs de missiles yéménites dans la province côtière de Hudaïda, en bord de la mer Rouge. Dans un communiqué publié sur X, le CENTCOM a affirmé « Les forces du commandement central ont mené le 19 janvier, vers 18h45, hors de Sana'a, des attaques contre 3 lanceurs de missiles anti-navires prêts à frapper dans la mer Rouge. » Précédemment, les États-Unis et l'Angleterre ont mené des frappes contre plusieurs sites au Yémen, auxquels Sanaa a répondu en ciblant des flottes américaines. Les attaques anglo-américaines surviennent après que l'armée yéménite a mené des opérations contre les intérêts israéliens dans la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, en soutien aux Palestiniens assiégés dans la bande de Gaza. La résistance palestinienne à Gaza continue de prendre pour cible les soldats et les véhicules blindés de l'armée israélienne dans tous les axes de combat, notamment au sud et au centre de la bande de Gaza. La résistance palestinienne est engagée dans de violents affrontements contre les forces d'occupation israéliennes au 105e jour de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Les affrontements se concentrent à Khan Younes, au sud de Gaza, ainsi qu'au centre de la bande côtière, notamment au nord-est du camp d'Al-Burayt. Les brigades Al-Rassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé que leurs combattants avaient ciblé un char israélien Merkava dans le camp d'Al-Burayt en utilisant un obus Yassin 105 de fabrication locale et visé les forces d'occupation israéliennes dans le camp avec des obus mortiers. Les tireurs d'élite d'Al-Rassam ont également ciblé un soldat israélien dans le camp palestinien à l'aide d'un fusil artisanal Al-Roul et ont ciblé deux autres soldats à Khan Younes. À l'est de Khan Younes, les combattants palestiniens ont détruit trois chars israéliens Merkava avec un engin explosif local, Shawaz, tuant deux soldats ennemis. Juste après cette attaque, un hélicoptère israélien s'est chargé d'évacuer les soldats tués et blessés. Les brigades Al-Rassam ont publié des images montrant leurs combattants ciblant les forces israéliennes avançant près de la frontière de la ville de Gaza avec des obus mortiers et des roquettes de 107 mm. En outre, les combattants de la résistance palestinienne ont fait sauter un tunnel dans lequel se trouvait un certain nombre de soldats israéliens, faisant parmi eux des victimes après avoir réussi à les attirer vers le quartier d'Al-Tufa, à l'est de la ville de Gaza. Ils ont également ciblé un bâtiment fortifié abritant des forces spéciales israéliennes avec quatre obus RPG et ont affronté des soldats utilisant des armes automatiques. Les brigades Al-Rassam ont également fait exploser un engin explosif antipersonnel contre une force israélienne et se sont ensuite engagées dans des affrontements directs à Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Un haut commandant de l'OTAN affirme que les forces armées et les civils européens doivent se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie. L'Allemagne estime qu'un tel conflit pourrait éclater dans moins d'une décennie. Le président du comité militaire des chefs nationaux de l'OTAN, l'amiral Rob Boer, a déclaré jeudi que l'alliance militaire se préparait à un conflit avec la Russie. « Nous devons, a-t-il dit, comprendre que nous ne sommes pas en paix et que c'est pour cela que nous avons des plans. C'est pour cela que nous nous préparons à un conflit. » L'amiral néerlandais a fait ses remarques alors que l'OTAN se prépare à lancer la semaine prochaine son plus grand exercice militaire depuis des décennies. Les exercices Steadfast Defender 2024 se dérouleront jusqu'à fin mai et impliqueront environ 9000 soldats des 31 pays membres de l'OTAN ainsi que la Suède, pays candidat. Boer a déclaré que l'ampleur de l'exercice était une démonstration du nouveau niveau de préparation de l'OTAN. C'est un nombre record de troupes que nous pouvons mobiliser pour mener un exercice de cette taille à travers l'Alliance, à travers l'océan, des États-Unis à l'Europe, a-t-il dit. Le ministre allemand de la Défense a également prévenu que la Russie serait en mesure d'attaquer les pays membres de l'OTAN dans moins d'une décennie. « Nous entendons des menaces de la part du Kremlin presque tous les jours. Nous devons donc tenir compte du fait que le président Vladimir Poutine pourrait même un jour attaquer un pays de l'OTAN », avertit le commandant de l'OTAN. « Même si une guerre avec la Russie n'est pas probable pour l'instant », a déclaré le ministre, « nos experts s'attendent à ce qu'elle soit possible sur une période de 5 à 8 ans ». À la fin de l'année dernière, l'Allemagne a réorganisé son armée pour la première fois depuis plus d'une décennie, invoquant la montée des menaces militaires contre l'Europe. Après que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022, l'OTAN a déclaré que la Russie constituait la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Le directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a déclaré que Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Chiben, s'exprimant à l'issue de sa visite à Gaza, a décrit cette zone comme l'endroit le plus dangereux pour les enfants. Je viens d'achever une visite de 3 jours dans la bande au Gaza, où j'ai pu coordonner avec les organisations locales et internationales les interventions d'urgence et faire le point sur les opérations humanitaires depuis ma dernière visite dans la bande au Gaza il y a 2 mois. Mais plus encore, j'ai pu rencontrer des enfants et leurs familles qui souffrent des conditions les plus horribles que j'ai jamais vues, a-t-il expliqué. Le responsable de l'UNICEF a averti que depuis sa dernière visite, la situation était passée de catastrophique à proche de l'effondrement. L'UNICEF a décrit la bande au Gaza comme l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une guerre contre les enfants. Mais ces vérités ne semblent pas être entendues. Sur les quelques 25 000 personnes qui auraient été tuées dans la bande au Gaza depuis l'escalade des hostilités, près de 70% seraient des femmes et des enfants. Le massacre des enfants doit cesser immédiatement, a-t-il insisté. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé vendredi 19 janvier, au 105e jour de la guerre dans cette région, que le nombre des morts s'était alourdi, passant à 24 762. Plus de 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Le communiqué du ministère précise que depuis le 7 octobre, 62 108 personnes ont également été blessées et plus de 7 000 personnes sont toujours portées disparues, sous les décombres, et les secouristes ne peuvent pas les récupérer. L'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme a annoncé dans un communiqué que depuis l'ouverture du dossier du génocide palestinien devant la Cour internationale de justice à La Haye, l'armée du régime sioniste avait tué plus d'un millier de personnes à Gaza. Contrairement au discours présenté par l'équipe d'avocats israéliens à la Cour internationale de justice pour rejeter l'accusation de génocide, les réalités sur le terrain prouvent qu'Israël n'a jamais cessé de commettre ce crime, même au moment où il se défendait devant le tribunal, regrette le communiqué de cette organisation non gouvernementale. La guerre à Gaza en est à son 105e jour, alors que le régime israélien n'a aucune idée ni perspective quant à son issue et n'a encore atteint aucun de ses objectifs initiaux déclarés. Le premier ministre du régime, Benjamin Netanyahou, a déclaré mardi lors d'une réunion avec les chefs du conseil local au quartier général du commandement sud de l'armée israélienne à Beersheba que la guerre à Gaza se poursuivrait jusqu'en 2025.